Nous sommes contents de vous retrouver. Bon début de journée avec nous. Bienvenue. Il est un peu plus de 8h, c'est France Bleu Orléans Matin et c'est Jérémy Marié que nous accueillons pour votre journal. Bonjour Jérémy.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Il était l'homme le plus recherché au monde.
Le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi. Il a été tué ce week-end en Syrie lors d'une opération militaire américaine. Qui était-il? On va dresser son portrait. Les premières annonces aujourd'hui du Grenelle contre les violences conjugales. Elles sont très attendues par ces femmes victimes de leur conjoint ou ex-conjoint. L'une de ces femmes témoigne ce matin sur France Bleu Orléans. Et puis la saison des champignons bat son plein en ce moment. Attention quand même aux intoxications. On va vous donner quelques petits conseils tiens, dans un instant. La météo, Marc.
C'est comme hier quasiment, hein, bien gris avec des petites pluies de temps en temps et pour les températures on a 10-12 degrés en moyenne actuellement.
Il était le visage de l'État islamique, son chef autoproclamé depuis 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, est mort. Donc Donald Trump l'a fièrement annoncé hier. Al-Baghdadi tué ce week-end lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Abu Bakr al-Baghdadi, un homme qui a réussi finalement à rassembler derrière lui des djihadistes du monde entier. Audrey Tison.
Irakien, il fait ses armes pendant l'invasion américaine. Il crée un petit groupuscule, mais reste un djihadiste de second rang, entre guillemets. En 2004, il est capturé par l'armée américaine et c'est dans l'immense prison de Bouka qu'il va faire des rencontres décisives. L'homme timide se révèle un fin stratège. Une fois libéré, celui qui s'appelle encore Ibrahim Awad al-Badri bénéficie d'un certain charisme. Il prête allégeance à Abu Musab al-Zarqawi, qui agit sous l'étiquette Al-Qaïda, puis devient l'homme de confiance d'Abu Omar al-Baghdadi. Lorsque ce dernier meurt, il prend sa succession et parvient à réaliser l'alliance entre des djihadistes venus du monde entier et des anciens militaires de l'armée de Saddam Hussein. Son organisation est rebaptisée État islamique, lui se fait désormais appeler Abu Bakr al-Baghdadi. En 2014, c'est l'apogée, il proclame le califat et prend le pouvoir sur une zone regroupant 7 millions de personnes entre la Syrie et l'Irak.
Et suite à l'annonce de la mort d'al-Baghdadi, la France et le ministère de l'Intérieur appellent désormais à une vigilance accrue avec la crainte peut-être d'actes de vengeance. Un Montargois de 46 ans se réveille ce matin en garde à vue, accusé cet homme d'avoir violemment agressé deux policiers samedi soir lors de son interpellation. Cet homme se trouvait en fait dans un bar du centre-ville de Montargis et le patron a appelé la police à cause de son comportement très virulent. Après son arrestation, c'est dans la voiture de police qui l'emmenait au commissariat que cet homme éméché s'en serait pris aux fonctionnaires. Des coups de pied alors qu'il était menotté. Un policier souffre d'un arrachement osseux de la main, un autre d'une fracture du poignet. Leur agresseur présumé nie les faits et assure que ce sont les policiers qui l'ont frappé. Patrick Balkany va-t-il sortir de prison 6 semaines après ses condamnations et son incarcération? Le maire de Levallois-Perret va savoir cet après-midi si sa première demande de mise en liberté est acceptée ou non. Patrick Balkany qui a fait appel de ses condamnations pour fraude fiscale et pour blanchiment aggravé.
Jérémy, on va bientôt connaître les premières propositions du Grenelle contre les violences conjugales.
Oui, c'est aujourd'hui que les premières annonces sont attendues. Quels moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes? Aujourd'hui, elles sont nombreuses, hein, toujours les femmes, à continuer de vivre la peur au ventre, la peur de leur mari ou de leur ex-conjoint. L'une de ces femmes a voulu témoigner ce matin sur France Bleu. Elle s'appelle Sophie. C'est une mère de famille orléanaise de 36 ans. 5 ans après leur séparation, son ex-mari continue aujourd'hui de la harceler. Sophie a dû déménager, changer de quartier. Elle a toujours peur pour elle et pour ses deux filles. Elle nous a spontanément contacté, Sophie, à France Bleu Orléans après un de nos articles sur un rassemblement contre les féminicides il y a 15 jours.
Quand j'ai vu cette publication de France Bleu, je me suis dit mince, j'ai pas été au courant qu'il y avait ça. J'aurais bien aimé participer parce que moi-même je fais partie des femmes victimes de violences. Même si je suis séparée de mon ex-mari, il continue quand même à faire des menaces de mort sur moi et mes enfants. Donc je lis aussi des articles et je vois que pour tout le monde c'est à peu près pareil. Il faut qu'il y ait un drame malheureusement pour que ça avance. Parce que j'ai été portée plainte plusieurs fois et un jour un policier m'a dit « Mais madame, ma pauvre dame, c'est la France. En gros, tant qu'il n'y a pas un drame, un meurtre, il n'y a rien qui est fait. » J'en arrive même à me dire « Je voudrais le croiser, qu'il me donne un coup de poing devant tout le monde et que la police vienne. » J'en suis arrivée là tellement je me rends compte qu'il n'y a rien qui est fait. Donc j'ai été obligée de déménager. Pour travailler, c'est compliqué aussi parce que je me dis « Si je trouve un travail, il va me retrouver et c'est pareil, ça me fait peur. » Je ne me protège pas vraiment. Je vous avoue, j'ai... toujours une bombe lacrymogène sur moi, au cas où. C'est un policier qui m'a conseillé de faire ça, mais c'est pas facile à vivre tous les jours, alors que lui, il est tranquille. Enfin, après, je connais pas sa vie, mais il est toujours en liberté.
Voilà, le témoignage très fort de Sophie. Vous pouvez le retrouver dès ce matin sur notre site francebleu.fr. Les premières annonces du Grenelle contre les violences conjugales sont attendues ce lundi et le Grenelle se terminera, lui, fin novembre.
On change de domaine, Jérémy, un petit peu de légèreté avec ce temps d'automne. On va peut-être pouvoir aller faire la chasse aux champignons.
Bah, vous voulez y aller maintenant, c'est ça?
Bon, pourquoi pas, après l'émission, ouais, avec nos paniers.
C'est parti, c'est vrai qu'avec l'humidité, en tout cas, c'est la saison idéale pour les champignons. Mais attention tout de même à bien les choisir. Sur les deux dernières semaines, près de 500 cas d'intoxication ont été recensés partout en France. Informer, sensibiliser, c'était d'ailleurs l'un des objectifs du Salon du Champignon ce week-end à Saint-Jean-le-Blanc. Vous vous y êtes rendu pour France Bleu, Théophile Vareille.
Un sac plastique à la main, François est venu au salon avec des champignons à faire identifier.
J'ai cueilli ce matin ce champignon que je pensais être un lactaire, une variété de lactaire, mais sans certitude.
Et il a bien fait de vouloir vérifier.
J'ai cueilli ça ce matin. Alors, c'est dans
ça,
mon...
C'est un paxil.
C'est pas une variété de lactaire.
Du tout. Non, c'est un paxil enroulé. C'est très, très toxique, ça. Faut surtout pas le manger.
Au sein de cette annexe du château de Saint-Jean-le-Blanc, des dizaines et dizaines d'espèces de champignons sont exposées, avec à chaque fois un petit écriteau indiquant si elles sont comestibles ou non. En train d'inspecter un bolet à pied rouge, Noël préfère, lui, s'en tenir à ce qu'il connaît.
Je ne cueille que ce que je connais, principalement les cèpes, les girolles, c'est à peu près tout. Sûrement que je passe à côté de trucs exceptionnels, mais je ne prends pas de risques. Voilà.
Membre de la Société mycologique du Gâtinais, Dominique Seguin est un des organisateurs du salon. Il en explique l'objectif.
Informer le public sur la dangerosité de certaines espèces. Ceci afin d'éviter des intoxications qui sont encore assez courantes en France de nos jours, dont certaines mortelles.
Pour s'assurer qu'un champignon est comestible, s'adresser donc à un mycologue confirmé ou à son pharmacien.
Allez voir un pharmacien pour identifier un champignon et aussi peut-être pour soigner un mal de crâne si on est supporter de l'équipe de foot de l'OM. Les Marseillais écrasés hier soir par le Paris Saint-Germain. 4-0, 4 buts inscrits en première mi-temps. Paris caracole en tête de la Ligue 1. En Coupe de France, il y aura deux équipes lorrainiennes au 7e tour. L'USO qui fera son entrée en lice. Et puis Saint-Privé, facile vainqueur de Saint-Jean-le-Blanc hier 5 buts à 1. Le tirage au sort, il aura lieu mercredi.
C'était un match un peu particulier hier pour les jeunes footballeurs d'Ingres.
Un match de Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 18 ans. C'était leur tout premier match aux Ingréens. Après cette agression dont on a beaucoup parlé, agression qu'ils ont subie il y a deux semaines à Bourges. Les joueurs d'Ingres ont perdu hier contre Blois, mais le résultat semble anecdotique et en signe de soutien. Certains joueurs d'Ingres ont reçu hier un maillot de Florian Thauvin, le joueur de l'OM qui a joué à Ingres. Très touché Florian Thauvin suite à cette agression, il avait promis de leur faire ce petit cadeau. Et puis l'Orléans-Loiret Basket a fait une belle opération ce week-end en Jeep Elite. Après leur victoire à Nanterre, les Orléanais prennent une victoire d'avance au classement sur les trois dernières places synonymes de relégation en fin de saison. Et hier, l'un des trois derniers a été battu chez lui par l'ASVEL. Et puis, on devrait d'ailleurs en savoir un petit peu plus dans les heures qui viennent sur l'état de santé de l'un des joueurs orléanais, Chris Evans. Il est sorti sur blessure à Nanterre dès le début du match. Il doit passer, Chris Evans, des examens aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus sur sa blessure et sur son indisponibilité.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu Orléans est sur FranceBleu.fr.